Bonjour et bienvenue dans notre émission Espace Femmes consacrée aux questions qui concernent les femmes dans les différents domaines. Aujourd'hui, nous allons parler des mécanismes mis en place pour le maintien des jeunes filles et des mères adolescentes à l'école au Niger. Le taux de mariage des adolescentes est le plus élevé au monde. 75% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans et 28% avant 15 ans. L'âge légal du mariage est de 15 ans justement au Niger, selon un article de National Library of Medicine publié le 25 novembre 2020, ce qui a un impact négatif sur l'éducation des filles. Alors, pour lutter contre ce phénomène, le gouvernement nigérien a mis en place des mécanismes pour encourager les jeunes filles et les mères adolescentes à poursuivre leur éducation. Que faire dans ce cas pour que le taux de scolarisation des jeunes filles soit rehaussé? Quels sont les mécanismes mis en place pour leur maintien à l'école? Qu'en est-il des mères adolescentes? C'est à ces questions que nous allons répondre dans ce forum aujourd'hui. Nous recevons comme invité M. le maire de la commune de Dosso, M. Abdou Madougou, de Mme Zainab Moussa, chef de division à la promotion de la scolarisation de la jeune fille, de l'éducation inclusive et de l'éducation en situation d'urgence. Enfin, nous recevons aussi M. Abdoulaye Moussa, vice-président de l'Association des parents d'élèves de l'école Mission Santa Monica. À la présentation, je suis Rafika Taher. Depuis 2006, l'éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans au Niger. Cette mesure a permis de réduire le coût de l'éducation pour les familles et donc d'encourager la scolarisation des jeunes filles. Les frais de scolarité peuvent en effet être un obstacle majeur pour les familles les plus pauvres qui sont souvent contraintes de faire des choix difficiles quant à l'éducation de leurs enfants. On va commencer par vous, Madame Zainabou. Est-ce que cela est-il bien appliqué sur le terrain? Je parle de la question des enfants de 6 à 16 ans au Niger qui ont obligation de rester à l'école.
C'est applicable aujourd'hui dans les écoles, surtout au préscolaire et au primaire. Aujourd'hui, l'accès est très bon. Nous avons un bon taux. Maintenant, le problème, c'est le maintien qui cause problème, surtout au secondaire. Avec les mariages des enfants et les grossesses pour immaturité.
Monsieur le maire, est-ce que vous avez une idée de l'application de cette loi sur le terrain?
Moi, j'ai un effectif un peu de la commune, c'est-à-dire pour voir un peu la scolarisation des jeunes filles et dans l'ensemble. En fait, le problème ne se pose pas au niveau de la commune comme ça se pose au niveau donc des villages. Donc, si vous constatez, on a garçons 11 686. Et les filles, on a 12 059, donc au niveau de la commune. Il y a la disparité, bien sûr, quand on va au niveau des villages, parce que la commune compte 26 villages. Donc, oui, c'est l'arbre qui cache donc la forêt, parce que si on va dans les villages, il y a cette disparité du côté donc des filles.
Monsieur vice-président de l'Association des parents d'élèves, les élèves sont-ils aussi maintenus à l'école de 6 ans jusqu'à 16 ans?
D'une manière générale, nous constatons que dans les écoles, de plus en plus, comparativement il y a 5-10 ans, il y a une amélioration. Il y a une prise de conscience, en tout cas des parents, à amener les filles à l'école. Et les partenaires sont en train d'emboîter le pas. Je crois que c'est ça qui fait le fruit qu'on observe aujourd'hui.
D'accord. Je reviens vers vous, Madame Zainabou. Dans le temps, lorsqu'une jeune fille se marie ou tombe enceinte, elle est exclue de l'école. Est-il toujours le cas aujourd'hui?
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a un décret et des arrêtés d'application qui sont là. Aujourd'hui, si la fille tombe enceinte, elle a la chance de retourner à l'école. Si elle est mariée, elle a la chance de retourner pour poursuivre ses études.
En dehors de la gratuité et l'obligation de l'éducation pour tous les enfants de 6 à 16 ans, y a-t-il d'autres mécanismes qui sont mis en place?
Oui, il y a d'autres mécanismes, puisque l'État nigérien vient de mettre en place un document, la ISNAEF, la Stratégie nationale d'accélération de l'éducation des filles et des femmes et pour la formation des femmes. C'est un document qui a été amendé et adopté en 2020. Dans ce document-là, tout y est. les ONG, tout, on peut trouver tout pour le maintien de la jeune fille. Par exemple, si vous prenez la construction des internats là, c'est déjà prévu dans ces documents-là. Et avec les partenaires encore, on a prévu de donner des bourses aux filles pour les maintenir à l'école. Il y a d'autres partenaires qui prennent en charge le transport, la navette que font les jeunes filles par jour, 14 à 20 km. Il y a des partenaires qui prennent ça en charge pour au moins soulager la fille, pour qu'elle continue ses études jusqu'à l'âge de 16 ans au-delà même.
D'accord. Monsieur le maire, dans votre commune, est-ce qu'il y a des mécanismes que vous mettez en place?
La grossesse, même si l'État dit qu'on peut maintenir donc la fille, mais ce n'est pas là le problème. Il y a notre mentalité qui ne permet pas donc à la fille de continuer dès qu'elle tombe en grossesse. C'est un aspect encore plus important, même si on crée les conditions pour le maintien, et je pense qu'elle sera mal accueillie et par leur soeur et aussi même par les garçons. Donc psychologiquement, cela ne permet pas quand même à la fille d'aller à l'école. Je pense que ce qu'il faut faire, il faut tout faire pour éviter les grossesses. Mais une fois qu'il y a la grossesse, quelles que soient les conditions bonnes sur les papiers, on va lui dire, et même les parents ne veulent pas que leurs enfants aillent à l'école, en tout cas avec les grossesses. Et ensuite, je connais votre deuxième point, pour dire que s'il y a donc quelque chose de particulier qu'on est en train donc de faire pour maintenir donc les jeunes filles à l'école. Nous, ici au niveau de la mairie, nous voudrons en fait travailler dans un ensemble. Un ensemble, donc les moyens, s'il y a les moyens, on les met à la disposition du système, c'est-à-dire des directions des inspections. Il revient donc aux inspections de faire en fait en sorte qu'on privilégie les jeunes filles. Mais nous, on voulait une école de qualité et vraiment, dans notre budget, on prévoit beaucoup pour l'amélioration donc de la qualité de l'éducation.
Vous nous parlez de l'éducation en général.
En général.
D'accord. Parlons des actions que vous avez prévues justement pour ce maintien-là des enfants à l'école.
Au niveau de la commune, vous savez, notre problème, c'était d'abord les différentes constructions, les classes. Les enfants étaient, si ce n'est pas peut-être cette année, avec les mesures prises par l'État, si on comptait au niveau du... il y avait plus de classes en paillotte que de classes en matériaux définitifs. Ça décourage donc les enfants. Parfois, on passait dans les écoles, c'est vraiment des tiges très mal placées, et c'est là où j'interpelle peut-être les parents. Et les enfants qui sont là, dans des paillotes, qui sont en même le sol, alors que ailleurs ou à côté, il y a certains qui sont donc dans des classes en matériaux définitifs et sur des tables bas. Nous avons mis l'accent sur donc la construction des écoles. On a accompagné cette année, en tout cas au niveau de la commune, il y a un effort formidable qui a été fait. Et je pense qu'on ne peut même pas atteindre donc le délai. On peut avoir zéro paillote au niveau de la commune.
D'accord. Madame Zenobou nous a parlé des mécanismes déjà mis en place. Vous aussi, vous nous avez parlé de quelques mécanismes. Comment contribuez-vous à l'application de ces textes?
Oui, mais en tant que maire, s'il y a des défaillances, je pense que le maire doit prendre ses responsabilités au niveau des sanctions. Même si vraiment je les accompagne, et chaque fois qu'il y a donc des cas comme ça, des phénomènes comme ça, qui entravent en tout cas la scolarité des enfants, on me rend compte. Et moi, en fonction donc de ma petite robe donc de maire, en fait, j'essaie de faire quelque chose, mais ça me dépasse. On va au-delà donc au niveau donc du préfet ou du gouverneur avant donc de passer ailleurs.
Madame Zenobo a aussi parlé des internats pour les filles. Il y a certains parents qui n'acceptent pas d'envoyer leurs enfants, surtout les filles, dans ces internats. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? C'est aussi, je pense, un frein à l'éducation de la jeune fille. Alors que ces internats sont surtout faits, par exemple, pour les filles qui sont dans des localités éloignées, de pouvoir aussi avoir accès à l'éducation, à la restauration.
Madame, cette action d'internat pour les filles, c'est une expérience qui n'est pas venue aujourd'hui. Il y a eu des expériences, notamment à Dosso et ailleurs. Et cette expérience, en tout cas d'internat, comme toute action, a des avantages et des inconvénients. Avec les expériences qui ont eu lieu, nous avons remarqué qu'il y a eu des réussites. Mais pour qu'il y ait ces réussites-là, il faut qu'il y ait un accompagnement fort, responsable et soutenu. Parce que une petite faille peut faire écrouler toute l'action. La jeune fille, sa vulnérabilité n'est pas à démontrer. Et c'est ce qui fait qu'il faut un accompagnement fort, il faut un dispositif bien réfléchi pour pouvoir l'accompagner à atteindre ses objectifs. J'ai rencontré en tout cas des filles qui sont rentrées en internat dans les expériences passées, que j'ai rencontrées qui sont en université. Ça m'a donné de la joie au cœur. Donc c'est possible, mais il faut des efforts, il faut des gros efforts, il faut toute une responsabilité, il faut un engagement ferme.
Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents d'élèves pour qu'ils puissent accepter enfin ces internats, en plus des avancées qu'il y a déjà eues? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Moi, je pense que ces parents-là doivent s'adjoindre à la réflexion pour faire encore mieux au vu des expériences passées et des initiatives qui sont en voie actuellement. Participer à la réflexion, donner leur point de vue, partager leurs préoccupations, pour que leurs préoccupations soient prises en compte. Sans l'engagement de ces parents, il est évident que ce n'est pas toujours garanti. Donc il faut que l'État également, au vu de ses engagements, les textes qui ont été conçus, que leurs applications ne souffrent pas et que ces applications-là soient faites avec la rigueur qu'il faut.
Pour l'internat, des jeunes filles vont pour le moment ici au niveau de la commune. On attend, ce n'est pas encore arrivé. Mais nous avons vécu, comme il l'a dit, les expériences passées. Et c'est toujours ce que j'ai à dire. Éduquer une fille, même pour sa maman, c'est un autre problème à plus forte raison pour quelqu'un. Et c'est pourquoi les filles arrivées au collège ont des difficultés. Parce que déjà, les parents qui les accueillent ont déjà leurs difficultés. Parce qu'entretenir une fille avec 500 francs, tu peux habiller le petit garçon. Mais je vous affirme que ce n'est pas facile d'habiller une jeune fille avec même 5 000 francs. L'autre aspect aussi, c'est le déplacement. Si vous prenez par exemple ici les gens qui sont dans les villages, les filles se déplacent, mais quand elles vont dans les collèges ruraux, aujourd'hui ce n'est pas comme avant où on considère l'élève comme un parent, il faut l'accueillir. Il y a l'entretien, il y a les difficultés donc de la vie qui fait que l'enfant n'est pas totalement à accepter. Le parent lui-même, il a des difficultés, en tout cas, pour entretenir ses enfants. Et si on lui ajoute un autre enfant ou une autre fille, c'est des problèmes. Les enfants se déplacent, ils quittent chez eux, ils vont dans le centre où il y a le collège et ils ne passent pas la nuit. Ils descendent à 14h, ils remontent. Ce n'est même pas facile pour un garçon, à plus forte une fille. Et c'est pourquoi moi j'ai salué les internats de jeunes filles. Dans tous les cas, les internats, on va réserver ça aux filles qui sont donc dans les collèges ruraux. Mais si les parents refusent, c'est-à-dire, nous avons constaté, parce que moi j'ai eu à enseigner à l'école normale de Tillabéri pour donc la formation des enseignantes. Mais je vous assure que c'est des grandes, mais on a toutes les difficultés, tous les problèmes pour les gérer. Ce n'est pas facile. Et maintenant, c'est le même problème. Comme l'a dit le parent d'élève, il faut prendre des garde-fous. Il faut vraiment que l'État serre la ceinture pour pouvoir les maintenir. Ce n'est pas facile de regrouper un certain nombre de filles et de les éduquer. Tandis que la fille n'est pas capricieuse, mais le comportement, les exigences de la fille, c'est encore autre chose par rapport donc à l'homme.
Avant de continuer cette émission, je vous propose d'écouter quelques témoignages que nous avons recueillis sur notre thématique d'aujourd'hui.
À mon avis, l'État doit assister les enfants, les mettre dans de bonnes conditions d'études, mettre à leur disposition des enseignants qualifiés. Nous-mêmes parents, on doit faire preuve de responsabilité. Nous devons toujours être vigilants de l'éducation de nos enfants, de regarder leurs cahiers, de vérifier s'ils sont à jour. Les parents doivent aussi se rendre de temps en temps à l'école pour voir l'évolution des études de leurs enfants, surtout pour les jeunes filles. On doit s'assurer qu'elles aient de bonnes fréquentations, c'est-à-dire les mamans doivent être plus vigilantes, avoir un œil regardant sur les amis de leurs enfants, surtout les jeunes filles. D'un autre côté, j'attire l'attention des mères, surtout au moment de la campagne, de laisser les filles continuer leur scolarité, de ne pas les retirer de l'école pour les donner en mariage.
Wallahi, les filles qu'on fait quitter l'école très tôt pour les marier, à ma connaissance, ce n'est pas une bonne chose. Moi qui vous parle, je suis père de 3 filles, toutes sont à l'école. Wallahi, ce qu'il faut faire pour garder les jeunes filles à l'école, la première des choses, la sensibilisation de toute la population pour qu'ils puissent comprendre l'intérêt et l'importance d'une fille qui a étudié. Parce qu'elle apporte beaucoup de choses à sa famille et à sa nation. Prenons l'exemple dans le monde. On voit des femmes présidentes, des ministres, donc ça doit être une leçon pour nous. Outre ça, si on regarde dans la religion, des femmes ont étudié le Coran entier. Et au niveau de l'école, elles sont allées loin. Elles sont devenues des députées et des fonctionnaires. Donc, ça suffit pour comprendre qu'on doit laisser les filles à l'école. Deuxième chose, une fille qui a étudié, si elle gagne, son mari bénéficie, son papa, ses enfants et toute la société va en bénéficier. C'est pour cette raison qu'on veut que les filles restent à l'école pour étudier afin de gagner leur sueur.
Nous les mamans, nous devrions être très attentives sur le train de vie de nos enfants, car de nos jours, les enfants sont majoritairement incontrôlables. Il nous faut les guider sur le droit chemin. Et même pour leur réussite à l'école, nous devrions leur assurer un bon suivi. Malheureusement, nombreux sont les parents qui donnent leurs jeunes filles en mariage très tôt, souvent à l'âge de 12 voire 13 ans, ce qui n'est pas sans conséquence sur la vie de l'enfant qui peut avoir des complications au cours de l'accouchement. Vous voyez, ils privent ainsi leur enfant de l'école, ce qui n'est pas bien. Nous attirons vraiment l'attention des parents, qu'ils laissent leur enfant continuer leur scolarité. Car si l'enfant réussit, au-delà de sa famille, c'est toute la nation qui va en bénéficier.
Qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages que nous avons recueillis, monsieur le maire?
Bien sûr, c'est les parents. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai dit que l'éducation commence au niveau donc de la mère. Mais le suivi, ça c'est les parents. Parce que les enfants ont plus peur du père que de la mère. Donc ça, il faut que les parents suivent. Et suivre comment? Aujourd'hui, c'est très difficile de voir nos parents d'élèves se déplacer pour aller à l'école et écouter les enseignants pour dire « Mais en fait, que devient mon enfant à l'école? Est-ce qu'il travaille? Qu'est-ce qu'il fait ?» Pour eux, ils dégagent les responsabilités. « Oh, ces enfants-là à la maison me gênent, me dérangent. Eh bien, je les envoie à l'école. »
D'accord. Madame Zainab, qu'est-ce que vous pensez des témoignages qu'on vient d'écouter?
Une femme qui a relaté la réalité. Il faut un soutien, il faut que les enfants là soient suivis à la maison par les parents et du près.
Et vous, monsieur Abdoulaye?
C'est des témoignages qui sont éloquents, mais dans leurs témoignages, qu'est-ce qu'on voit? On voit le déclin de la responsabilité collective. C'est ce que, qui avait existé auparavant et qui enfin, tend à disparaître. Avant, l'enfant est pour tous. Mais maintenant, cette responsabilité est individualisée. Chacun essaie d'abord, même cela n'est pas garanti, de s'occuper seulement de ses enfants. Alors que dans le temps, quand l'enfant est dans la rue, et tout le monde a le regard sur lui, son comportement, et tout le monde agisse sur lui pour qu'il soit un homme demain. Enfin, également pour la jeune fille, pour qu'elle soit une bonne dame, en tout cas, dans l'avenir. Donc, elles ont évoqué ça sans que ça soit spécifiquement donné. Mais moi, j'ai aperçu, en tout cas, cet aspect. L'homme également a intervenu, en tout cas, par rapport à la responsabilité des deux parents. C'est une évidence. Donc, moi, je dis, aujourd'hui, on est en train de faire des choses qui nous permettent, en tout cas, d'arriver à soutenir la jeune fille. Donc, c'est pour dire qu'il y a des efforts à fournir si on veut vraiment atteindre nos objectifs par rapport à l'avenir de nos filles. Ce n'est pas seulement le suivi, mais il faut faire de l'investissement pour que la tranquillité soit soit et que les filles puissent s'épanouir.
Quels sont les impacts de la non-scolarisation de la jeune fille?
Les impacts sont graves. Parce que quand vous comptez, vous faites la part des choses. En fait, d'une manière générale, le pourcentage au féminin nous dépasse en tout cas d'à peu près 2 ou 3%. Et si cette frange-là n'est pas suffisamment impliquée dans la vie de la nation, à tous les niveaux, ça veut dire que nous n'arriverons pas à bon port comme nous le souhaitons. Je crois fermement à cela parce que je vois que aujourd'hui, avec l'effort de tout un chacun, de tous ceux qui ont compris, on arrive à relever en tout cas quelques défis qui nous permettent à comprendre qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs, les filles, les femmes sont en train de, tout le point de vue intellectuel, nous dépassent. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Il faut que cette frange-là prenne sa place pour que le développement, en tout cas au Niger et d'une manière générale mondiale, en tout cas, puisse être au rendez-vous.
À travers tout ce que vous faites pour le maintien des jeunes filles et des mères adolescentes à l'école, qu'est-ce que vous avez eu comme progrès?
Dans la région du Dosso, le taux de la scolarisation de la jeune fille en 2020 au primaire est de 46,2%. Et l'indice de parité est de 0,85 au primaire. Au secondaire, il est de 44% et l'indice de parité est de 0,80. En 2021, nous avons ici le taux d'abandon. Au primaire, il était de 42,9 et au secondaire, il est de 42,21. Au BPC, si je peux vous donner les résultats de 2022. Le résultat de 2022, il est de 23,94 au BPC pour l'ensemble filles et garçons. L'indice de parité est de 0,83 en 2022. Mais au BPC, il est de 0,57. Donc ici, vous avez constaté qu'il y a eu une baisse. Il y a beaucoup d'établissements qui font 0%. Il y a même des établissements qui n'ont pas de filles. Vous voyez?
Selon vous, pourquoi et à quel niveau on remarque ces réticences?
C'est parce que les filles n'ont pas assez de moyens pour bien étudier, comme les garçons. Surtout, je vous ai parlé des mariages précoces là, qui se font surtout dans les villages. Si on demande les mamans, elles disent que c'est leur fille. Donc, si elles ont décidé de les marier, elles vont les marier. C'est comme ça. Les papas sont là. Si on parle en sensibilisation, c'est ce que nous disent les mamans. C'est elles qui prennent les filles à 100% dans les campagnes là. Si c'est l'argent du projet, si c'est l'habillement, si c'est les fournitures scolaires, toujours c'est les mamans qui payent. Parfois, elles nous disent qu'elles sont obligées de les laisser faire le petit commerce pour se venir à leurs besoins. Et c'est devant les papas qu'elles disent ça. Donc, si elles ont décidé de les marier, c'est comme ça. Vous savez, c'est l'argent. Hein? Les exodons qui viennent, ils payent des portables aux filles et c'est fini. C'est facile de détourner la fille.
En rapport avec vos enquêtes, à quel niveau de scolarisation est-ce que ces mères que vous dites décident de soustraire leurs filles à l'école?
C'est surtout au secondaire que le problème se pose. Parfois, dès la sixième, surtout dans la zone de Gaïa.
Monsieur le vice-président des parents d'élèves, est-ce que vous confirmez ce que Mme Zainab vient de nous dire?
Tout à fait.
Oui?
Tout à
fait.
Parce que, comme je vous parlais d'expérience passé, c'est ce qui nous a amené à réfléchir à l'internat. Et ce problème, effectivement, a commencé avec les filles qui sont arrivées au secondaire, où la plupart, en tout cas, soit en milieu d'année ou en fin d'année, ne rapportent plus à l'école, au collège. Et c'est ce qui nous a amené à créer un internat. Et dans les villages d'intervention à l'époque, nous avons réuni 50 filles, et les meilleures des classes, hein, que nous avons appuyées à vouloir rester en tout cas à l'internat. Et c'est la triste réalité, c'est ce qui se passe. Le mariage pour cause en tant que phénomène, ou forcé, s'il faut le dire, c'est également à ce niveau la fille à l'âge de puberté, elle est convoitée par certains hommes inconscients qui pensent que avec leur petit budget, qui peut payer un portable ou autre, il faut avoir cette fille-là à leur merci. Et continue à talonner les parents pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Voilà, et il y a pas mal de problèmes comme ça, où des filles qui sont envoyées soit en ville pour continuer leurs écoles sont en fait tentées par plusieurs problèmes, que ce soit au niveau domicile, que ce soit dans la rue.
Merci pour ces précisions, M. Abdoulaye. À présent, place à notre portrait du jour.
Âgée de 39 ans, mère d'une fille, Mme Saoudat Aboubakar Kabir est titulaire d'un master en communication. Après avoir occupé plusieurs postes au Niger et à l'extérieur, Mme Saoudat est actuellement écrivaine, journaliste, fondatrice du magazine Voix des femmes africaines. En 2013, elle réalisa son rêve avec la création de l'ONG Al-Ihsan, une ONG qui œuvre pour l'éducation de la jeune fille en milieu rural. Elle nous raconte les raisons qui l'ont poussée à créer cette ONG.
J'ai créé l'ONG Al-Ihsan pour vraiment faire un bon développement à la jeune fille rurale, surtout les jeunes filles rurales et les jeunes filles qui passent leur temps à passer dans les rues, à faire, comme on l'appelle en Hausa, Talla, surtout dans les localités Hausa. J'ai vu beaucoup, beaucoup de jeunes filles qui se sont données à la prostitution. On ne peut pas se dire qu'elles se prostituent en ayant des maisons de prostitution. Non, elle se prostitue à la maison sans pour autant se rendre compte. Parce qu'une fois que la femme amène, ou bien la fille de 15 ans, 16 ans, amène juste 2 500, 5 000 à la maison, alors que tu lui as posé quelque chose de 1 000 francs, 1 500 et tu ne lui demandes pas. Et parfois, quand la jeune fille n'amène même pas cet argent, elle a tous les problèmes du monde avec sa maman. Ce qui fait en sorte que j'ai vu beaucoup, beaucoup de jeunes filles s'égarer une fois. Donc, c'est l'ampleur de Talla et l'ampleur aussi de n'ayant pas une éducation. Parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir une très bonne éducation. Donc pourquoi pas eux? Si réellement ces jeunes filles ont eu une bonne éducation, comme le dit un adage, éduquer la femme c'est éduquer toute une nation. Et avoir l'opportunité d'avoir une fille éduquée, donc va devoir avoir aussi des bonnes descendances.
Avec l'aide de ses partenaires, Madame Saoudat Aboubakar est très satisfaite de son travail.
Que je suis satisfaite du travail que j'avais fait. Surtout quand tu accomplis quelque chose que vraiment une totalité de gens sont fiers de toi parce que tu as amené un changement, un très grand changement à ta population, surtout à la population rurale, dont tes parents aussi sont de cette population. Donc c'est vraiment un travail bien fait et un travail bien accompli. Bien que ça n'a jamais été facile de changer la mentalité des gens ou bien des communautés rurales, surtout quand tu parles de la femme. C'est très, très, très difficile. Mais alhamdoulilah, on est satisfait du résultat parce que avoir donné de l'éducation à beaucoup de jeunes filles, elles sont devenues indépendantes et elles-mêmes sont vraiment fières de ce qu'elles font. Donc vraiment, c'est une fierté nationale pour toi-même qui est vraiment l'initiateur de l'initiative. C'est quelque chose que tu fais comme une sadaqatul jariya.
Merci Adamou Bouraima Sidibé. Maire du 10e arrondissement de Niamey, apprécie la collaboration et le courage de Madame Saoudat Aboubakar Kabir.
Je suis Saoudat Aboubakar et c'est une femme leader que nous parrainons depuis 2 ans. Nous avions fait sa connaissance en 2022 et lorsqu'elle voudrait organiser une journée de prière collective en faveur des FDS victimes du terrorisme. Et cette année, en 2023, elle est venue avec une nouvelle initiative et à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année. Récemment aussi, nous avions été surprises par Saoudat à la suite d'un prix, n'est-ce pas, dans une manifestation, n'est-ce pas, organisée à l'intention de la chefferie traditionnelle au Nigeria. Donc, elle a été couronnée et elle a bien voulu nous dédier ce prix qu'elle a reçu. Nous tenons à l'encourager et à la féliciter et pour que vraiment elle continue à initier ce genre d'action pour le bien-être des populations vulnérables.
Selon Madame Saoudat Aboubakar, l'éducation de la jeune fille est un élément essentiel pour son autonomisation et aussi un enjeu pour son épanouissement. Éduquer une fille, c'est lui donner la possibilité d'acquérir des connaissances qui lui permettront de prétendre à un métier et de construire son avenir, a-t-elle conclu.
Je viens à vous maintenant, monsieur le maire. Selon vous, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme amélioration dans le mécanisme déjà mis en place?
J'aurais bien voulu me prononcer sur ce que madame vient de dire. Je pense que ce qui a motivé les internats, c'est ce que les deux parents là viennent de dire. C'est-à-dire, le problème se pose au niveau de la transition. C'est quoi la transition? Quand les enfants passent du CM2 et au collège. Généralement, l'enfant est dans sa famille jusqu'au CM2. Parce qu'il y a les écoles primaires un peu partout. Donc l'enfant est en famille. Maintenant, arrivé au collège, je dis que l'entretien de la fille coûte cher. Au niveau du collège, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Et c'est au niveau du collège que les enfants-là tombent en grossesse. Parce que ce que le petit garçon peut accepter venir à l'école avec sa culotte, vous savez que la fille doit aussi s'habiller comme ses camarades. Il y a une certaine jalousie que le garçon, ça lui dirait, mais la fille voulant s'habiller comme la fille du fonctionnaire de la ville, eh bien, elle est obligée ou d'abandonner ou de se prostituer parfois. C'est ça. Et c'est ça pourquoi on a dit qu'il faut créer l'internat pour mettre les enfants dans les mêmes conditions. Quand à l'internat, c'est ça l'avantage. Tu manges ce que je mange. Que tu sois la fille donc du président, tu vas manger ce que je mange. Et vous voyez, donc c'est ça d'abord l'avantage. Donc, ils sont dans les mêmes conditions, ils doivent évoluer ensemble. Et ce que nous avons constaté peut-être au niveau des filles qui sont dans les conditions, elles réussissent encore mieux que les garçons. J'ai fait la distribution de prix l'année passée. Je vous affirme que ce sont les filles qui ont raflé tous les prix. Partout où vous passez aujourd'hui dans les écoles, si tu vois les enfants qui sont là, on va dire une première, une deuxième, et c'est après peut-être qu'il va y avoir un troisième. Je ne sais pas si peut-être les filles sont plus intelligentes, mais je vous dis que quand la femme se donne, vraiment elle réussit. Donc sur ce plan, c'est pourquoi je félicite, donc j'encourage les internats. Ça c'est un. La possibilité pour améliorer, je vous dis que il faut passer par la méthode, peut-être la méthode forte, ça veut dire dans la légalité, dans les droits. Aujourd'hui, on fait les textes, nous sommes spécialistes des textes. Mais l'application, franchement, l'application est difficile. Notre tradition qui fait que l'application des textes résiste.
Donc, est-ce qu'il y a une chance pour qu'un jour ces filles et ces mères adolescentes puissent avoir les mêmes possibilités que les garçons de rester à l'école?
J'ai grand espoir, parce que quand la fille en grossesse revient à l'école, ça veut dire qu'elle a la volonté de continuer. Si elle n'a pas cette volonté, elle va abandonner d'elle-même.
Madame Zainab, selon vous, est-ce qu'il y a une possibilité pour que ces jeunes filles et ces mères adolescentes puissent avoir la chance de rester à l'école autant que les garçons?
En tout cas, c'est qu'on souhaite, puisque dans le document de la SNAF, c'est un document qui va de 2020 à 2030. Et dans ce document-là, on prend l'équité, autant de filles que de garçons à l'école. Et le problème ne se pose pas dans les villes. Aujourd'hui, dans les écoles, dans les collèges, il y a des filles mères. C'est surtout dans les zones rurales qu'elles ne retournent pas. Dès qu'elles tombent enceintes, même avant l'accouchement, elles abandonnent et elles ne retournent pas. Mais dans les villes urbaines, dans les communes urbaines, là, ces problèmes-là ne se posent pas. Je voudrais revenir par rapport au texte-là. Vraiment, nous voudrions avoir des améliorations puisque ce sont des vides juridiques. Les textes-là ne punissent pas.
Ça revient aux recommandations de M. Lumière, il faut punir.
Il faut punir. Parce que si vous partez à la justice, c'est le code pénal qui est appliqué si la fille est mineure. Sinon, s'il y a les décrets, il y a les applications, mais vous ne voyez aucun article qui dise que si vous avez engrossé la fille, vous avez une peine d'emprisonnement de telle année à une telle année. Ça n'y est pas dans les textes. Même pour les mariages d'enfants, il n'y a pas de texte qui punit. Avant, c'est ce qu'on faisait dans les bourses pour dissuader les parents. Mais aujourd'hui, les parents ont commencé à comprendre. Parce qu'une fois en ville, nous, on ne savait pas, c'était un enseignant. Il nous a dit de lui montrer l'article là. Là où on a dit que l'argent va aller, la personne va aller en prison.
Ça veut dire que la personne ne croit pas en ces textes, d'accord?
Oui. Il ne croit pas en ces textes. Vraiment, s'il y a lieu de révision, nous souhaiterions que ces textes-là soient révisés.
Est-ce qu'il y a une certaine pérennité? Est-ce que ces filles en grossesse ou bien ces filles mères peuvent poursuivre leurs écoles, leurs études? Moi, je dis que vrai parce que dans les établissements privés où on les accepte, j'ai enseigné un peu dans un établissement privé secondaire, mais je vous affirme que ce sont ces filles-là qui tiennent la tête dans deux ou trois classes. Vous voyez, donc ça va. Parce que là-bas, elles se sentent encore plus à l'aise. En ce moment, l'État n'acceptait pas les filles qui tombaient en grossesse ou autre. Mais je pense que si c'est généralisé, ça ne va pas être entrave. Quand les camarades ont su, acceptent que, ah non, c'est comme ça, c'est l'État même qui les accepte. Et quand la fille même sait que c'est l'État même qui l'accepte, et les parents aussi, ils ont donc la volonté et ça va réussir. Donc moi, je n'ai pas cette information qu'on peut les accepter au niveau donc des établissements secondaires.
Monsieur Abdoulaye, vous voulez rebondir sur la question?
Cela n'a pas en fait d'effet problématique en ville où les gens avec la conscience dépassent en tout cas certaines considérations. Par contre, en milieu rural, il y a la pesanteur aussi qui est là, qui fait que cette fille-là elle-même a des difficultés à rejoindre le groupe après accouchement. Donc ça... Il y a un travail de titan à faire à ce niveau parce qu'il faut d'abord qu'en amont, les dispositions soient prises dans le temps avec le régime d'exception. Il y a ce qu'on appelle le décret 212 qui permet en tout cas d'arrêter tout un chacun qui abuse des jeunes filles en tout cas à l'école. Mais aujourd'hui, on est en démocratie, il faut que les textes soient révisés. Sur le terrain également, il faut sensibiliser les parents de l'importance, même en cas de grossesse ou d'accouchement, qu'elle doit prendre sa place dans le groupe.
Qu'est-ce que vous proposez, je continue avec vous, M. Abdoulaye, comme solution pour pallier à cette problématique?
En termes de solution, on a actuellement mis toute une batterie de mécanismes. Il faut que ces textes-là soient toilettés pour que au niveau de la dissuasion, les choses soient faites. Et au niveau du mécanisme, par exemple, l'implication des maires avec la création des associations des maires éducatrices, il faut renforcer ce mécanisme. La présence, en tout cas, des maires dans le débat à l'école, en tout cas, doit être renforcée. Et quant à l'internat, il faut que la communauté soit associée dans la réflexion. Il faut que les préoccupations de la communauté soient prises en compte. À ce niveau seulement que nous pouvons y arriver. Et également que l'État, l'accompagnement de l'État ne faille pas avec tout ce qu'il y a comme en tout cas mesures disciplinaires et d'appui matériel et financier à apporter et continuer en tout cas sur les autres fronts en tout cas par rapport à un certain nombre de mesures discriminatives en tout cas la discrimination positive et continuer dans ce sens là.
Merci beaucoup Monsieur Abdoulaye. À vous Monsieur le Maire, que proposez-vous comme solution pour pallier à cette problématique?
pour pallier ces problèmes, ces difficultés, les solutions, d'abord, il faut une forte sensibilisation. Une sensibilisation de tous les acteurs qui interviennent, en tout cas au niveau de l'éducation. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Il y a, pour l'éducation des enfants, pour l'éducation des jeunes filles, les premiers responsables, je me dis que ce sont les parents. Après les parents, il y a la communauté gérée par et la mairie. Et tout ceci doit donc appuyer l'État. Il faut que chacun contribue. On ne demande pas aux parents, en tout cas, de contribuer dans les grosses œuvres, mais ce qu'on leur demande, c'est le suivi des enfants. Et les enfants qui ont besoin de suivi, ce sont surtout les jeunes filles. Et si les parents suivent les enfants, ces phénomènes auxquels on est confrontés, je vous assure qu'on peut les éviter.
Enfin, Madame Zainab, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour pallier à cette problématique?
Moi, je dirais que vraiment, c'est de soutenir les actions de l'État. Ce que l'État a préconisé de faire là, les internats avec les partenaires qui ont accepté de donner des bourses aux filles, aux tuteurs et parfois même aux parents biologiques pour au moins laisser la fille et aller à l'école pour suivre ses études. Et surtout renforcer la capacité des mères éducatrices, les mères, les AME qui sont en bourse, parce que c'est elles qui sont en contact direct avec les autres mères. Elles peuvent les sensibiliser davantage. Moi, je pense que c'est la sensibilisation-là qui fait du fou. Même au niveau des filles, il faut renforcer la capacité des filles. Il faut former des filles leaders qui, à leur tour, vont former leurs camarades. Puisqu'il y a beaucoup de filles en zone rurale là, qui ne savent pas si elles ont la chance de retourner à l'école après l'accouchement.
Donc la sensibilisation est vraiment primordiale.
D'accord.
Chers auditeurs, ici prend fin notre émission Espace Femmes. Merci de nous avoir écoutés. Merci aussi, chers invités, d'avoir voulu partager votre expérience avec nous. Issa Lawali a assuré la technique pour... Mais avant de nous quitter, détendez-vous avec notre rubrique Appairage, communément appelée Loti.
S'il te plaît, Assia, range ton téléphone et marche plus vite, sinon on va rater la réunion.
Toujours pressée, Aïcha. Je suis juste derrière toi. Je suis en train de suivre une information capitale qui peut être utile à toi aussi.
De quelle information s'agit-il?
Il paraît qu'on va suspendre toutes les activités commerciales vu l'inflation.
Hey Aïcha, je t'ai toujours dit d'éviter de suivre ces fausses informations. Sinon, tu vas te créer des problèmes un jour. Est-ce que tu as vu un communiqué certifié qui annonce ce que tu viens de dire?
Non.
Alors, je te prie d'arrêter d'en parler. Allons-y.
Tu as raison. Je m'étais avant de creuser ma propre tombe.
C'est mieux pour toi. Attends, est-ce que ce n'est pas Ralia que j'aperçois là-bas?
Mais oui, c'est bien elle. Attends, je l'appelle. Ralia! Ralia! Ralia!
Aïcha, Assia, comment allez-vous? Depuis la troisième année, on ne s'est plus revus.
Oui, ça fait 6 ans, je crois bien. Tu deviens quoi?
Je suis toujours là. Je travaille juste à côté et je suis toujours célibataire.
Tu es là, toujours à choisir le bon mari jusqu'à devenir une vieille fille, n'est-ce pas?
Ce n'est pas ce que tu crois, c'est juste une question de temps.
Hé, Ralia, ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Allez, on ne va pas abuser de ton temps. Passe une bonne journée. C'était un plaisir de te revoir.
À vous aussi. Bonne journée à vous.
Bonne journée à toi aussi. Bye bye.
Assia, ce que tu viens de faire là, je n'ai pas aimé. C'est trop gênant.
Qu'est-ce que j'ai fait?
Tu parles du fait que Ralia n'est toujours pas mariée. C'est vrai, mais comment peux-tu lui faire des reproches?
Tu sais, les jeunes femmes de maintenant passent leur temps à choisir les hommes. Si ce n'est pas un riche, elles veulent, c'est un qui est beau. Et j'en passe.
Non, ne dis pas cela. Une femme ne se lève pas d'un coup de tête et décide de se marier. Tu connais nos réalités sociales. Ce n'est pas à elle de faire ce choix.
Comment ça? Donc ce n'est pas de sa faute. Est-ce que c'est sa famille qui va lui trouver un mari?
Non, pas forcément sa famille. Mais même si elle partage sa vie avec un homme actuellement, est-ce que si lui n'amène pas sa dot, elle va payer sa dot elle-même?
Non.
Alors, et si Dieu n'a pas prédestiné le mariage dans sa vie?
Comment est-ce que je peux le savoir, Aïcha?
Alors ne fais plus ce genre d'affirmation gratuite. Tu as dû toucher un point sensible chez elle en évoquant ce sujet. Et Dieu seul sait dans quelle réflexion elle s'est mise actuellement.
Tu as vraiment raison. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle, ni à quel point mes remarques pouvaient être blessantes. Je ferai attention dorénavant.
Tant mieux. Tu peux aussi montrer ta bonne foi en disant à ton mari de la prendre comme seconde épouse.
Ah, c'est la partie du film où les bandits tuent les héros, hein? Pardon, Aïcha. Ce n'est pas possible, je préfère prier pour elle.
Tu es trop drôle, je te taquinais même.
En tout cas, merci pour le conseil. Je l'appellerai pour m'excuser.